Donc la question qui a été posée, qui m'a été posée, hein, si Dieu existe, pourquoi le mal? C'est vrai que c'est une question qui n'est pas nouvelle. C'est une question qui torture, je crois, l'esprit des chrétiens depuis des siècles, depuis des millénaires, on pourrait dire, hein, depuis en tout cas qu'ils réfléchissent. Théologiens et philosophes l'ont travaillé, retravaillé, et c'est vrai que j'ai ni le temps, ni surtout la capacité de faire le tour de la question, et probablement encore moins de vous proposer une solution nouvelle, la solution miracle qu'on tire du chapeau. Je souhaiterais l'aborder de la manière la plus concrète, en envisageant la question au fond de deux manières. Je suppose que la question, vous l'avez déjà entendue. Et je ne sais pas si, je suppose, certains d'entre vous ont déjà été derrière des stands bibliques, dans une entrée d'université, de faculté ou dans un resto-U. Et tous ceux qui ont entamé, me semble-t-il, un dialogue un peu sérieux avec des non-chrétiens connaissent la question. On pourrait dire que sous une forme subtile et élaborée, ou sous une forme massive et grossière, au fond, elle revient sans cesse, et c'est dans cette perspective que je voudrais l'aborder. Mais surtout, peut-être, vous êtes-vous posé la question, vous. Et il me semble que c'est aussi de cette question-là que j'aimerais parler. Pas la question seulement qu'on aborde avec le non-chrétien, comme s'il y avait d'un côté le chrétien qui savait la réponse et de l'autre le non-chrétien qui posait la question. Mais au fond, la question que nous nous posons à nous-mêmes. Je crois que la théologie n'a pas seulement à rendre compte à ceux qui nous demandent de justifier notre foi, mais aussi elle cherche à creuser en nous-mêmes les questions essentielles. Et je suis persuadé que personne ne peut répondre sur la question du mal, sur le problème du mal, à quelqu'un qui pose des questions sincères, hein, des questions profondes, sans avoir d'abord affronté ces questions personnellement. Et donc c'est pour ça que dans le premier exposé, donc il y a deux exposés, le premier est aujourd'hui, le deuxième, vous avez vu, à l'extrême fin du week-end, ça sera lundi. Dans ce premier exposé, je voudrais essayer simplement de creuser la question, de l'approfondir. On pourrait dire d'en faire miroiter les facettes, hein, de la retourner dans plusieurs sens, sans encore lui donner vraiment de réponse, même si on va... dans ce premier exposé, envisager une série de réponses diverses qui ont été données, mais sans, je crois, essayer de donner ce que je crois être une réponse tout à fait plausible. Il me semble que trop souvent, nous avons les bonnes réponses, peut-être pas au GBU, quoique, trop souvent, nous avons les bonnes réponses à des questions que non seulement personne ne nous pose, mais encore à des questions que nous ne nous sommes jamais vraiment posées. C'est très dangereux, je crois, quand on est évangélique, ou c'est très dangereux quand on croit quelque chose de sérieux, d'avoir les réponses avant de s'être posé les questions. Parce que ça évite de penser. Et ça peut arriver, ça. Donc je voudrais essayer d'entrer dans la question et au fond d'envisager, là, dans ce premier exposé, les principales attitudes chrétiennes qui ont existé et qui existent encore aujourd'hui en face d'elle. Donc d'abord, la question elle-même. On pourrait la résumer ainsi. Comment est-il possible qu'un Dieu tout bon et tout puissant permette le mal que nous constatons dans le monde? Il me semble que toute la question tourne ainsi autour de trois pôles. Et vous verrez, si vous faites sur votre papier un petit triangle, ça marchera très bien. Et on va revenir longuement sur ces trois pôles, hein. Dieu est amour, Dieu est tout puissant, et puis le mal existe. Et c'est le maintien de ces trois pôles qui pose problème. Et vous verrez que la plupart des solutions tendent à effacer ou au moins à estomper l'une ou l'autre de ces affirmations. Mais donc, lorsqu'on parle du mal, de quoi parle-t-on? Henri Blocher, dans un petit bouquin qui est aussi à la librairie, hein, qui est dans le monde évangélique francophone, mais même plus que francophone, je crois, une des meilleures choses qui a été publiée, hein, « Le mal et la croix », définit le mal comme l'injustifiable réalité, c'est-à-dire ce qui survient et qui ne devrait pas survenir. Il y a, lorsque nous parlons du mal dans ce sens, l'indignation devant l'inacceptable. Alors je voudrais maintenant que nous entrions, si j'ose dire, dans ce mal, en vous proposant trois images du mal, qui, me semble-t-il, sont les plus fortes pour nos contemporains. Si vous demandez dans la rue, si vous lisez chez les auteurs des symboles du mal, il me semble que, en tout cas, la plupart des trois vont revenir d'une manière ou d'une autre. Et je crois qu'il serait bon de les avoir devant les yeux, peut-être aussi dans le cœur, pas simplement dans la tête, hein, lorsque nous allons nous pencher sur la question. Donc, trois symboles du mal, des symboles réels, dramatiquement réels, mais qui sont pour nous, on pourrait dire, comme des icônes. Hein. En les voyant, derrière l'image, c'est bien sûr une réalité beaucoup plus vaste qui s'offre à nous. Il s'agit de trois regards sur ce que le mal a sans doute de plus révoltant pour nos contemporains. Et je pense que c'est à cause de ces images, et souvent ça vient textuellement, ils le disent explicitement, hein, que certains refusent de croire, ou que d'autres, j'ai envie de dire, cessent de croire. Ou enfin que d'autres modifient l'idée de Dieu qu'il se faisait à partir de ces images. Donc première, je vous dis tout de suite les trois images, hein. Je crois qu'elles sont dans le texte d'ailleurs que vous avez peut-être dans votre présentation, c'est Auschwitz, c'est la souffrance d'un enfant, et puis c'est, je dirais, les tremblements de terre, hein, rapidement. Donc d'abord à Auschwitz. Je crois que depuis la Seconde Guerre mondiale, Auschwitz, entre autres, hein, et les autres camps de la mort, sont devenus comme le symbole même de ce que l'homme est capable de faire à l'homme. Non pas, bien sûr, que les abominations n'aient pas existé auparavant. Si vous vous penchez un peu sur l'histoire, vous verrez que l'homme a une imagination absolument débordante dans ce genre de choses. La liste serait interminable. Mais je crois que aucun acte, aucune abomination ne frappe l'imagination autant que ces noms-là. La folie humaine, on pourrait dire, a tout commis, et les persécutions ont toujours été atroces. Mais là, il me semble qu'il y a autre chose. Là, c'est un des peuples les plus civilisés qui soit, qui est en cause. Un de ceux qui ont sans doute apporté le plus à la philosophie, à la musique, à la science. Le peuple qui a déclenché la réforme avec Luther, on pourrait dire donc un pays historiquement chrétien, qui va froidement, scientifiquement, exterminer 6 millions de juifs. Et quand je dis 6 millions de juifs, c'est sans compter tous les autres. Hein. Qu'est-ce qui n'a pas en tête, par exemple, vous savez, ces visages émaciés, hagards, certaines photos qui ont été prises lors de la libération des camps de concentration. Je pense qu'une des personnes qui a le plus travaillé ce genre de questions, quand j'y travaillais, non seulement elle a travaillé ces questions, mais on pourrait dire ces questions l'ont travaillé, c'est Elie Wiesel, vous savez, qui est prix Nobel de littérature, ou de la paix d'ailleurs, je ne sais plus. Toute son œuvre est une manière de garder la mémoire de la Shoah, une réflexion sur le comment vivre et comment penser après Auschwitz. Alors je voudrais que nous lisions deux extraits de son tout premier livre, un tout petit livre autobiographique très impressionnant, très remuant, qui s'appelle La Nuit. Peut-être certains d'entre vous l'ont lu, sinon je vous conseille. Ce n'est pas forcément ce que vous pouvez trouver comme littérature de plus détendant et de plus reposant, mais c'est très impressionnant. Et il nous rapporte dans une scène la pendaison de trois détenus, dont l'un était un enfant. Et en approchant de la potence, donc on avait forcé tous les prisonniers à défiler devant la potence, quelqu'un derrière Wiesel était lui-même gosse, enfin jeune là-dedans, et donc dans les camps, et quelqu'un demande « Où est Dieu ? Où est-il ?» Donc les prisonniers sont forcés de défiler devant les cadavres, enfin devant les personnes en tout cas, et de les regarder bien en face. Et voilà ce qu'il écrit. « Les deux adultes ne vivaient plus. » Leur langue pendait, grossie, bleutée, mais la troisième corde n'était pas immobile. Si léger, l'enfant vivait encore. Plus d'une demi-heure, il resta ainsi, agonisant entre la vie et la mort à lutter sous nos yeux, et nous devions le regarder bien en face. Il était encore vivant lorsque je passais devant lui. Sa langue était encore rouge, ses yeux pas encore éteints. Derrière moi, j'entendis le même homme demander « Où donc est Dieu ?» Et je sentais en moi une voix qui répondait « Où est-il ? Le voici. Il est pendu, ici, à cette potence. » Et puis un peu plus loin, dans le même livre, Wiesel se souvient de sa réaction lorsqu'il entendit des milliers de co-détenus, donc juifs, entonner le vieux refrain « Béni soit l'Éternel ». Et voilà ce qu'il écrit. « Pourquoi, mais pourquoi te bénirais-je ? Toutes mes fibres se révoltaient. Parce qu'il avait fait brûler des milliers d'enfants dans ses fosses ? Parce qu'il faisait fonctionner 6 crématoires jour et nuit, les jours de sabbat et les jours de fête ? Parce que dans sa grande puissance, il avait créé Auschwitz et Birkenau, Buna et tant d'usines de la mort ? Comment lui dirais-je, béni sois-tu, éternel, maître de l'univers, qui nous a élus parmi les peuples pour être torturés jour et nuit, pour voir nos pères, nos mères, nos frères finir au crématoire. Loué soit ton saint nom, toi qui nous as choisis pour être égorgés sur ton autel. » Alors on ne sait pas devant ce genre de choses, ce qui est le plus troublant du mal subi, donc la souffrance qui a été celle de ces millions de personnes, ou du mal infligé. L'horreur de la souffrance vécue a été telle que les survivants, vous savez, ont eu un mal infini à être crus. Ils n'ont pas osé dire leur expérience devant l'incrédulité dérangée des auditeurs. Ça a été un immense problème pour la plupart d'entre eux, du fait que c'était incroyable au sens strict. Mais que dire aussi du mal commis ? Que des hommes comme nous, terriblement comme nous, des gens qui, à un détail historique près, finalement, pourraient être nous, que des gens comme nous aient été capables de faire cela à leurs semblables, j'ai envie de dire, nous horrifie et nous fascine. Et on le voit bien dans notre imaginaire où l'ESS, ou son semblable, apparaît un peu comme le mal absolu. Mais je ne sais pas si vous êtes comme ça, ou si vous êtes comme moi, ou si vous êtes comme, je crois, la plupart des gens. Ce mal absolu, il nous horrifie, mais il nous fascine. Regardez à quel point ça revient en permanence dans l'imaginaire, dans les médias, etc. Il y a quelque chose de pathologique là-dedans, mais qui existe. Et lorsque... Alors la question qu'on peut se poser toujours, c'est comment un Dieu bon peut-il permettre cela ? Et lorsqu'on est juif, comme Wiesel, la question prend une ampleur, je dirais, encore plus intenable. C'est pourquoi le philosophe juif Hans Jonas a écrit un petit ouvrage, je vais y revenir, d'abord une conférence, hein, « Le concept de Dieu après Auschwitz ». Deuxième symbole, icône, image, la souffrance d'un enfant. On peut dire que dans la première image, celle d'Auschwitz, c'est l'horreur humaine qui est dénoncée. Parce que, d'une manière ou d'une autre, on sait bien que si 6 millions de Juifs ont été exterminés, c'est quand même d'abord par les gens, d'abord par des hommes. Ce sont des hommes qui ont fait ça. Ici, je dirais que c'est, homme ou pas homme, la souffrance incompréhensible, injuste, celle de l'enfant qui subit. Ça peut être parfois la souffrance infligée, là aussi, mais ça peut être aussi quelquefois la nature, si j'ose dire, qui suit son cours, qui agit seule. Dans l'admirable livre de Dostoïevski, Les frères Karamazov, si vous ne l'avez pas lu, c'est pardonnable, mais à peine, corrigeable en tout cas. Ivan Karamazov, donc un des frères, va exprimer la raison de son refus de Dieu dans un chapitre qui s'appelle La Révolte et qui précède immédiatement un autre chapitre très 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 célèbre, même publié quelquefois en tiré à part, hein, la parabole du grand inquisiteur. Et alors il va décrire longuement la souffrance de certains enfants massacrés, torturés, et il ajoute ceci. Vois-tu d'ici ce petit être, ne comprenant pas ce qui lui arrive, au froid et dans l'obscurité, frappé de ses petits poings, sa poitrine haletante et versée d'innocentes larmes en appelant le bon Dieu à son secours. Comprends-tu cette absurdité ? A-t-elle un but ? Dis-moi, toi mon ami et mon frère, toi le pieux novice, il parle à son frère Alyosha. On dit que tout ça est indispensable pour établir la distinction du bien et du mal dans l'esprit de l'homme. À quoi bon cette distinction diabolique payée si cher ? Toute la science du monde ne vaut pas les larmes d'un enfant. Et si la souffrance des enfants sert à parfaire la somme des douleurs nécessaires à l'acquisition de la vérité, j'affirme d'ores et déjà que cette vérité ne vaut pas un tel prix. Je préfère garder les souffrances non rachetées et mon indignation persistante, même si j'avais tort. Et c'est souligné dans le texte, même si j'avais tort. Et on va retrouver plus près de nous la même indignation chez Camus. qui va d'ailleurs reprendre dans son livre « L'homme révolté » directement l'exemple d'Ivan Karamazov pour fonder en quelque sorte sa position. Donc on retrouve bien sûr le thème de l'innocence là, mais ici on pourrait dire nous ne sommes plus devant une horreur historique, comme dans le cas du massacre des Juifs par exemple pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais devant la proximité d'une souffrance possible. Qui est-ce qui ne connaît dans ses proches ou dans ses amis une famille qui a connu la perte d'un enfant? S'il fallait aussi des symboles, vous vous souvenez peut-être de ces images. Alors, je ne sais pas si ça dépend des âges ou pas, mais que le monde entier a vu à la télévision, hein, je ne sais plus très bien l'endroit, cet enfant d'Amérique latine enlisé après un tremblement de terre, hein, ou je ne sais pas quoi, ou des inondations, et s'enfonçant de plus en plus dans la boue. Et le monde entier a été incapable de le sauver, même si les caméras étaient là pour filmer le martyr. Il me semble que nous sommes là devant la souffrance intime, non pas devant l'immensité du massacre, comme tout à l'heure, mais une personne seule, et on pourrait dire la plus innocente de toutes. Et là, Dieu, là encore, hein, est resté silencieux. Et puis, troisième image, au fond, la catastrophe naturelle. On pourrait dire le tremblement de terre. Cette nature qui est créée par Dieu, cette nature dont on chante la beauté, il lui arrive de se mettre en colère. Et on pourrait dire de se retourner contre nous de manière en quelque sorte aveugle, hein, et de massacrer des villes, des pays entiers. Et là, plus question de chercher des responsabilités humaines. Plus question de dire c'est le péché de l'homme ou c'est le mal qui est dans tel ou tel ou tel groupe ou dans telle personne. Le problème, c'est que si on veut voir la main de Dieu dans l'éclosion des fleurs, la croissance de l'arbre ou du brin d'herbe, si on célèbre, comme il est d'usage dans nos cantiques et dans notre louange, hein, la providence de celui qui fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, comment ne pas voir également sa main derrière la catastrophe qui va rayer Pompéi ou Lisbonne de la carte? La création de Dieu est-elle menaçante? Et vous rappelez peut-être, dans vos années de lycée, j'imagine que vous avez dû étudier ça à un moment ou à un autre, c'est un des thèmes de Voltaire, dans Candide. Il va utiliser la vision du tremblement de terre de Lisbonne en 1755, hein, pour critiquer le « tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ». Vision optimiste, qui reprend en la caricaturant un peu lourdement quand même, hein, de Leibniz. Et pour nous, alors je ne sais pas, ça va peut-être rappeler des choses à ceux qui ont un disque bleu, là, les vieux d'entre nous. Vous rappelez comment chanter Dieu Tout-Puissant quand mon cœur considère, c'était l'époque ça je crois, quand j'étais jébéussien, hein, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, la terre, la mer, les éclairs, le soleil, le clair matin et les ombres du soir. Comment chanter ça et ne pas voir qu'alors, lorsque la création se déchaîne, le Dieu Tout-Puissant en question risque fort d'être impliqué aussi, hein, dans la responsabilité des drames qui surviennent. Voilà, on pourrait continuer à l'infini, je crois, la description de ce mal. Alors, avant d'aborder les trois grandes solutions, je voudrais encore citer Voltaire, quoiqu'il ne soit pas un de mes livres de chevet, qui, dans son dictionnaire philosophique, à l'article « bien », virgule, tout est, cite un père de l'Église, Lactance, et il dit ceci. Donc, cite un père de l'Église, je cite, là, qui, dans son chapitre 13 de la colère de Dieu, fait parler ainsi Épicure. Et ça résume très bien notre question. Où Dieu, ou bien Dieu, veut ôter le mal de ce monde et ne le peut? Où il le peut et il ne le veut pas? Où il ne le peut ni ne le veut? Ou enfin, il le veut et le peut? S'il le veut et ne le peut pas, c'est impuissance, ce qui est contraire à la nature de Dieu. S'il le peut et ne le veut pas, c'est méchanceté. Et cela est non moins contraire à sa nature. S'il ne le veut ni ne le peut, c'est à la fois méchanceté et impuissance. S'il le veut et le peut, ce qui seul de ses parties convient à Dieu, d'où vient donc le mal sur la terre? C'est bien la question, hein, c'est bien notre question. Et beaucoup y répondent en disant « Donc, Dieu n'existe pas ». Et vous avez probablement, j'imagine, eu l'occasion d'entendre ça. Alors, je reconnais que c'est un peu court comme conclusion, parce qu'au fond, ça revient à dire en gros « Si Dieu existait, il devrait être semblable à l'idée que je me fais de ce que devrait être Dieu. Ce n'est pas le cas, donc il n'existe pas ». C'est vrai que l'argument est pour le moins faible, mais en même temps, derrière cet argument faible, je crois que peut se cacher une question réelle, et peut-être même une souffrance réelle. Mais aussi la réponse peut être différente. Puisque le mal existe, c'est donc que l'idée que je me fais de Dieu ou du mal est fausse. Et viennent alors diverses tentatives de solutions. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, imaginons un triangle, pas la peine que je vous le dessine, je crois que vous pouvez faire ça, même les littéraires parmi vous doivent avoir encore quelques notions. Vous imaginez un triangle avec donc trois sommets comme la plupart des triangles, et aux trois sommets vous avez la réalité du mal, la bonté de Dieu et la toute-puissance de Dieu. Et j'ai envie de dire que pour schématiser, hein, et en sachant que la réalité est plus complexe que ça, parce qu'il y a toujours des demi-teintes, bien sûr, mais pour schématiser, on pourrait dire que chaque tentative de solution revient à éliminer un des sommets, ou au moins à estomper un des sommets. Alors c'est ces trois tentatives globales de solution que je voudrais maintenant que nous envisagions. Donc première solution, le moindre mal. Vous pouvez mettre des guillemets autour de moindre. Et donc là, c'est la partie mal qui va être estompée ou gommée. Cette solution, elle vient en premier car elle est tentante, puisqu'elle permet en effet de ne pas toucher, si j'ose dire, à l'idée de Dieu. Il reste à la fois amour, toute bonté et tout puissant. Mais c'est le mal alors qui ressemble plus ou moins à une illusion d'optique. Et la question qu'on doit se poser, c'est le mal est-il vraiment mal, est-il vraiment mauvais, ou le mal n'est-il qu'une illusion? Je crois que certaines religions, non chrétiennes en particulier, ont longuement développé le thème. Tout est bien, et au fond, seule notre cécité nous empêche de nous en rendre compte. La volonté même de distinguer entre le bien et le mal serait la preuve de notre manque de sagesse. Il est donc possible, dans ce cas-là, de rester impassible devant ce qui survient, et pour moi et pour les autres, et à moi et aux autres, puisque tout cela est au fond sans importance. Une certaine attitude stoïcienne va dans le même sens. Le monde et sa marche sont parfaits. Nous ne pouvons qu'y adhérer, même si nous ne comprenons pas exactement de quelle manière tout est bien. La vérité et la sagesse seraient alors comme par-delà le bien et le mal. Mais il est aussi possible de, sans aller jusque-là, de réduire la force du mal tout en lui reconnaissant son caractère propre. On accepte que le mal est mal, mais on va arrondir en quelque sorte un peu les angles. Le monde est le mieux possible. Sans que nous sachions exactement comment, toute chose concourt à sa perfection. Si le mal existe, c'est au fond en vue d'un plus grand bien. C'est la position que caricaturait Voltaire, hein, la position de Leibniz. Quand Leibniz dit tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, c'est tout est le mieux possible. C'est tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Étant donné la complexité du monde, finalement, c'est le moins mauvais qu'il était possible d'imaginer. On pourrait dire aussi de manière plus moderne que Teilhard de Chardin présente cette vision dans la perspective de l'évolution. Le mal, c'est alors le déchet inévitable de cette évolution. Il est même nécessaire pour la marche en avant et on peut parler de sa fécondité. On pourrait dire aussi Dieu lui-même, dans sa sagesse, n'en a-t-il pas voulu ainsi? C'est donc qu'il est utile ce mal, quelque part. C'est ainsi qu'on pourrait également rattacher à cette tendance tous ceux qui font du mal un élément nécessaire à la dialectique du salut. Et je crois que en reconnaissant une sorte de positivité au mal, finalement, d'une certaine manière, le mal n'est pas si mal que ça, ou en tout cas, le mal sert à quelque chose. On pourrait dire que c'est le mal du mal qui est estompé. Le mal, finalement, perd de son aridité, de sa couleur. Que nous ne puissions le comprendre dans ce cas-là, nous qui avons en quelque sorte le nez dedans, c'est pas étonnant. Et seule une certaine sagesse, dira-t-on, seul un regard exercé pourra deviner la fin positive qui est celle de la création dans son développement historique. Et on entend un peu en écho le Felix culpa de la liturgie catholique, hein, heureuse faute, donc celle du péché d'Adam, hein, heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. Finalement, la faute était presque nécessaire pour en arriver au salut. La souffrance elle-même, pourrait-on dire, n'est-elle pas utile à notre sanctification? La mort ne nous rapproche-t-elle pas de Dieu? Imparfaits comme nous le sommes, nous pouvons souffrir, mais si nous voyons derrière le voile, toutes ces illusions se dissiperaient. Puisque Dieu est amour et tout-puissant, c'est que le mal, au fond, n'est pas si grave que nous ne le craignions dans notre faiblesse. Alors, je crois qu'il faut comprendre la tentation, là. Elle a quelque chose de fascinant aussi. Mais est-ce qu'on peut dire cela devant la mère qui a perdu son enfant? Est-ce qu'on peut dire cela à des rescapés des camps de la mort? C'est vrai que dans cette perspective, il ne reste plus qu'à garder le silence du sage, en attendant que nous soyons, nous, touchés à notre tour. Vous savez, c'est très facile souvent de philosopher sur le mal des autres, que subissent les autres. À moins que, et je crois qu'il ne faut pas non plus nier cette perspective dans une vision bouddhiste ou stoïcienne, hein, à moins qu'à force d'exercice, nous arriverons nous aussi à échapper à cette condition de souffrance. Mais il faut reconnaître en tout cas que nous sommes là très loin du témoignage biblique, qui n'arrête pas de mille manières de nous rappeler que le mal est mal. Les prophètes n'ont pas une telle mise à distance, hein, quand ils tonnent contre l'injustice et contre le mal commis. Et contre le mal commis, par exemple, par les grands du peuple. Pourquoi cette véhémence contre le péché dans toute la Bible et contre le mal dans toute la Bible, s'il n'est au fond qu'un passage obligé? On pourrait dire que dans cette perspective, Job eut mieux fait de se taire et d'être en position zazen à attendre que ça passe. Ces protestations manquent manifestement de sagesse et pourtant Dieu, on y reviendra là la prochaine fois, ne semble pas lui reprocher. Enfin, si tout est ainsi pour le mieux pour qui sait voir derrière les apparences, était-ce vraiment nécessaire que Jésus non seulement s'incarne, mais qu'il meure sur la croix pour libérer le monde du mal et le réconcilier avec Dieu? On pourrait dire que dans cette perspective, l'opposition entre la lumière et les ténèbres est sagement remplacée par une sorte de clair-obscur. Deuxième tentative de solution, c'est, je dirais, celle de l'absolue souveraineté de Dieu. Si le mal est mal, et que Dieu est tout-puissant, n'est-ce pas alors l'absolu de la bonté de Dieu qu'il nous faudrait réviser? Un penseur comme Jung, vous savez, qui est un des grands fondateurs, on pourrait dire, de l'analyse, avec Freud et quelques autres, bien qu'il soit, pour les freudiens orthodoxes, un abominable hérétique, un penseur comme Jung va dans ce sens, sans hésiter. Il écrit un livre qui est entièrement, on pourrait dire, consacré à ce sujet, c'est « Réponses à Job ». Et il développe une vision très complexe de Dieu. Il écrit ceci, hein. Job, il ne peut nier qu'il se trouve confronté à un Dieu indifférent à tout jugement moral en ce qui le concerne et qui ne reconnaît aucune éthique ayant valeur de lien ou d'engagement. Yahvé n'est pas un homme, il est à la fois et indissolublement le persécuteur et l'allié contre ce persécuteur. Chacun des deux aspects de lui-même étant aussi réel que l'autre. On ne saurait dire que l'être de Yahvé est dissocié, il constitue une antinomie, somme de contradictions intérieures qui est le tremplin de la condition préalable, de sa dynamique monstrueuse, de son omnipotence et de son omniscience. Donc Dieu est au-delà du bien et du mal, à la fois, on pourrait dire, Dieu et Satan. Cette manière de penser va trouver en Hermann Hesse, je ne sais pas si vous connaissez ce romancier, pour tout dire que j'aime par ailleurs, on pourrait dire un porte-parole littéraire dans son roman en particulier « Démian ». Et c'est intéressant que le roman « Démian » a été écrit par Hermann Hesse après sa cure. Il a fait une psychanalyse avec un psychanalyste jungien. Et là-dedans, Abraxas est présenté comme étant à la fois, donc un dieu, hein, comme étant à la fois Dieu et Satan. Alors même si la pensée jungienne peut être dans certains cercles à la mode, rares sont ceux qui iront évidemment jusque-là, surtout parmi les chrétiens. Ce serait un peu difficile, je crois, à maintenir. Mais il me semble que ce Dieu, au-delà de toute morale, demeure séduisant. Surtout au moment où la morale a mauvaise presse. Vous savez que, en général, quand on parle de morale, quand on dit quelque chose, il faut toujours qu'on dise qu'on ne fait pas de la morale, là, ou on fait de l'éthique qui est au-delà de la morale. Enfin, là, il ne faut pas qu'on soit trop empêtré là-dedans. Et alors, je crois que dans cette période, ça permet d'espérer de l'extrême de l'idée de souveraineté de Dieu. On pourrait dire que cette idée de la souveraineté de Dieu devient alors l'essentiel de toute compréhension que nous pouvons avoir de Dieu. Dieu serait avant tout dans cette perspective-là, et vraiment avant tout, le maître souverain sans lequel rien ne se produit. Tout est donc le fruit de sa volonté directe. Sa justice et son amour, et vous savez que la Bible parle de l'un et de l'autre, ne sont plus deux aspects d'une perfection unique. On pourrait dire que c'est celle de sa justice aimante, hein, ou de son amour juste, mais deux perfections qui l'orientent séparément, comme deux projecteurs différents, vers les uns ou vers les autres. Lorsqu'une certaine théologie dit de manière symétrique que Dieu a prédestiné certains hommes au salut pour manifester son amour et d'autres à la perdition pour faire éclater sa justice, on pourrait dire qu'il est alors pensable de remonter plus haut. Et certains l'ont fait. La chute n'est alors qu'un moyen utilisé par Dieu pour manifester sa gloire et en quelque sorte pour faire le tri entre les hommes. Et il devient alors très difficile de se défendre de l'idée que l'entrée du mal dans le monde est le résultat d'une volonté délibérée de la part de Dieu. Bien sûr, ce développement de la souveraineté forcera alors à comprendre autrement la bonté de Dieu, qui deviendra alors largement une bonté malgré tout, malgré les apparences, tout autrement que ce que nous pouvons comprendre. Le risque, bien sûr, dans ce cas-là, c'est qu'à force, les mots ne veuillent plus rien dire. Un peu comme celui qui dirait « je te torture, mais c'est pour ton bien ». Dieu a alors dans cette perspective en quelque sorte deux visages. Il est le Père de tendresse pour ceux qu'il a élus en Christ, pour lesquels seul celui-ci est mort. Et puis il est colère et toute puissance juste pour les autres qu'il condamne. Bien sûr, on ne va pas éliminer, quand on est chrétien, l'amour de Dieu du tableau, mais cet amour sera tellement subordonné à la souveraineté parfaite et absolue de sa toute-puissance, que tout se passe comme si le mal devenait alors un instrument entre les mains de Dieu pour parvenir à ses fins, qui sont bonnes parce qu'elles sont les siennes. De fait, et malgré les affirmations explicites, on pourrait dire que l'image de Dieu commence à changer et que le sommet bonté de notre triangle est comme effacé et comme estompé et comme englouti par la toute-puissance. L'argument fondamental qu'on va utiliser dans ce cas-là, c'est « qui es-tu pour contester avec Dieu ?» Cette vision, elle aussi, est fascinante. Son absolue souveraineté donne à la fois, je dirais, confiance absolue aux croyants et en même temps un certain vertige. Ceux qui la défendent sont sûrs d'être dans le droit fil de la révélation, et je crois qu'il faut reconnaître que beaucoup de passages bibliques vont dans leur sens. Et en même temps, je crois qu'on est en droit aussi de se poser une autre question. C'est celle-ci, d'où vient cette perspective ? Est-ce qu'elle vient du récit biblique lui-même? Ou bien est-ce qu'elle vient, je dirais, d'une rationalisation globalisante qui écrase au passage ce qui ne va pas dans ce sens, les textes qui parlent d'autre chose? Est-ce qu'elle vient du récit biblique pris dans sa totalité, ou est-ce qu'elle est une manière de réfléchir de manière rationnelle sur un certain nombre de choses en soulignant les passages bibliques qui vont dans un certain sens et finalement en faisant entrer les autres dans un système? Qu'en est-il? Alors c'est vrai que toutes les affirmations qui présentent la souveraineté de Dieu, et nul ne conteste qu'elles sont nombreuses, hein, on y reviendra, sont magnifiées. Mais qu'en est-il des textes qui parlent de la volonté universelle de salut de Dieu, de son amour pour tous les hommes? Son amour pour tous les hommes qui est tellement important que c'est sur son amour, sur l'amour de Dieu, que nous devons régler, en quelque sorte, aligner notre propre amour pour tous les hommes, y compris pour l'ennemi, etc. Qu'en est-il surtout de cette lutte de Dieu contre le mal qui se manifeste tout au long de l'Écriture et qui va culminer en quelque sorte en Jésus-Christ? Ne s'agit-il, puisque Dieu tire toutes les ficelles, que d'une manière de parler? On pourrait dire d'une sorte de faire semblant de Dieu qui, ayant préordonné toute chose, fait ensuite comme si le mal et le péché le touchaient, comme si sa relation aux hommes était celle d'un amour passionné. Un Dieu, et c'est la question je crois qu'on peut se poser, un Dieu impassible et peut-être un peu philosophique sur les bords, n'aurait-il pas remplacé le Dieu de la Bible? Troisième et dernière grande tentative de solution, c'est celle qu'on pourrait intituler le Dieu faible. C'est probablement la plus répandue des solutions chrétiennes. Elle est très classique dans sa version modérée et elle est très à la mode aujourd'hui dans sa version radicale. Alors c'est par elle que je voudrais commencer. Puisque Dieu est amour et que le mal existe, c'est que ce dernier se produit en quelque sorte malgré Dieu. Vous vous rappelez le passage de la nuit de Wiesel que j'ai lu tout à l'heure? Devant l'enfant pendu, cette voix qui disait « Où est Dieu ?» Et la réponse est « Le voici, il est pendu ici à cette potence. » C'est aussi le chemin que va prendre Hans Jonas dans son livre sur le concept de Dieu après Auschwitz. Dieu lutte avec les hommes, pour les hommes. Dieu souffre et lutte contre le mal du monde. Vous avez peut-être entendu parler de cette théologie dite du process, ou du processus, ça dépend des traductions, hein, très à la mode aussi dans certains milieux, et qui va dans ce sens. Dans cette perspective, on pourrait dire, Dieu n'est aucunement tout-puissant. Dieu est en quelque sorte engagé à nos côtés dans le combat pour le bien. Il est impliqué dans notre monde, mais il ne domine aucunement ce monde. Il participe à notre histoire, il essaie d'orienter notre histoire vers le meilleur, mais il rencontre des résistances, et contre ces résistances-là, il ne peut pas grand-chose. C'est vrai qu'une telle idée de Dieu correspond bien à notre pensée, enfin à la pensée en tout cas, actuelle. Et il me semble que nous nous trouvons là devant une véritable tentative de solution. Mais on a envie de dire aussi une tentative de solution à quel prix? Parce que ce Dieu bien sympathique, qui est notre compagnon de route, mérite vraiment un petit dé. On est loin du Dieu créateur de l'univers. On est loin du Dieu biblique, maître de l'histoire, sans la volonté duquel rien n'arrive. Si certains passages de la Bible sont vraiment pris en compte, ceux précisément qui nous parlent du combat de Dieu de notre côté avec nous, sont peut-être même mieux prises en compte que dans d'autres approches, combien de passages bibliques sont simplement passés par pertes et profits? Ça suppose une telle liberté prise avec la révélation biblique qu'on a du mal à ne pas avoir l'impression que c'est ce Dieu-là est une sympathique invention humaine, touchante, mais peut-être un peu dérisoire. Alors en revanche, la version modérée de cette interprétation a connu un immense succès et des défenseurs prestigieux. Et probablement qu'elle est plus ou moins dans la tête, je pense, d'une majorité d'entre nous spontanément. Dieu est bien tout-puissant. Il pourrait faire toute chose. Mais on pourrait dire que Dieu se limite volontairement pour laisser un peu de place à la liberté humaine, pour laisser un peu de place à la liberté de l'homme. Le mal devient alors le fruit malheureux de la liberté. Liberté humaine, bien sûr, puisque c'est par elle que le mal est entré dans le monde. Mais on pourrait dire, on pourrait remonter un peu plus haut, hein. Et on pourrait dire en amont, liberté des anges. Puisque Satan est un ange déchu et que sa liberté a été telle qu'elle lui a permis, entre guillemets en tout cas, mais de se révolter contre Dieu. Le mal, nous est-il dit, est pour une part essentielle le résultat du péché humain et plus précisément de la faute d'Adam. Ainsi, C.S. Lewis, donc, que vous connaissez sans doute, j'ai envie de dire le très grand C.S. Lewis, hein, écrit ceci, « C'est notre volonté libre qui rend le mal possible. Pourquoi donc Dieu la donna-t-il aux hommes à l'origine ? Parce que cette volonté, quoique laissant le champ libre au mal, est la seule chose rendant possible l'amour, la bonté ou la joie qui nous réjouissent. Évidemment, Dieu savait ce qui arriverait si les hommes usaient à tort de leur volonté. Il estimait cependant que ça valait le risque. Et on fait remarquer aussi que dès le jardin d'Éden, l'interdiction adressée à Adam de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal sous peine de mourir montre bien que la possibilité de la chute existait. Qu'elle était même envisagée, on pourrait dire, par Dieu, au point de motiver une mise en garde. Mise en garde qui, d'une certaine manière, ne pouvait être perçue que comme structurante. Hein, vous n'allez pas mettre en garde vous n'allez pas interdire à votre enfant d'attraper la lune. Vous savez que, de toute manière, le danger n'est pas bien grand. Si vous lui interdisez quelque chose, d'aller jouer sur les rails de chemin de fer, c'est qu'effectivement, c'est une réalité pensable, possible. On fera même remarquer que le mal, dans ce même récit, préexiste à l'homme, dans le récit. Puisque vous vous rappelez que le serpent est là déjà, et que c'est le serpent qui sera le tentateur. Cela fait donc remonter notre question à la chute des anges, si on prend le serpent comme le symbole de Satan. Et la réponse peut alors être la même. Pour que les anges puissent se révolter, encore fallait-il que le jeu de la liberté le permette. Dieu n'est donc pas là exilé en quelque sorte de sa toute-puissance, mais c'est lui qui se retire pour permettre la liberté de l'homme, indispensable pour permettre une relation d'amour, mais qui inévitablement ouvre également la porte au rejet de Dieu et donc au mal. Je crois qu'il faut reconnaître la grande part de vérité, comme dans chacune des interprétations, hein, la grande part de vérité que comprend cette présentation. On pourrait dire que c'est bien ainsi que se présente à certains égards le récit biblique, avec l'énorme importance accordée à la responsabilité de l'homme. Responsabilité de l'homme dans le péché et dans l'entrée du mal dans le monde qui mystérieusement, vous vous rappelez dans Romains 8, va aller jusqu'à asservir la création elle-même. Son grand mérite, on pourrait dire à cette interprétation, c'est de rendre à la responsabilité de l'homme ce qui lui revient. Combien de fois reproche-t-on à Dieu des actes que les hommes ont commis ? Mais en même temps, il me semble que, quelque séduisante que puisse paraître cette explication, elle en est quand même un peu courte. Elle est quand même trop courte pour être vraiment satisfaisante. C'est vrai que Dieu ouvre ainsi à l'homme, en fait au premier homme, puisque à partir de lui, les autres, je dirais, seront enchaînés par le péché. Dieu ouvre à l'homme un espace de liberté qui va lui permettre d'entrer dans une relation d'amour avec son Créateur. Et cette liberté, elle est d'autant plus risquée que l'ombre du tentateur plane derrière le tableau, on pourrait dire rampe plutôt derrière l'arbre. Donc dès le début, on pourrait dire que la liberté humaine est donc tentée. Et cette tentation suppose un mal déjà présent, un mal personnifié. Mais Dieu ne savait-il pas déjà, et c'est ça qui rend l'explication, je crois, une explication courte, Dieu ne savait-il pas déjà comment Adam et Ève allaient réagir ? S'il ne le savait pas, c'est qu'en effet, alors, il n'était pas tout-puissant. Mais s'il le savait, alors pourquoi l'a-t-il permis ? Et encore une fois, déplacer la responsabilité sur Satan, c'est, je crois, simplement déplacer la question d'un cran. Mais ça ne change rien de fondamental. Car là aussi, soit Dieu n'y pouvait rien, et on tombe dans le manichéisme, hein, deux dieux, deux puissances divines qui s'affrontent, mythologiquement, mais justement mythologiquement, on n'est plus dans la Bible. Ou alors, Dieu a permis l'existence de Satan, et derrière le mot permettre, qui est une manière de dire que c'est Dieu sans être Dieu tout en étant Dieu, hein, la question demeure. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Il me semble qu'il y a dans toutes ces interprétations du vrai. Il y a des choses justes, je dirais, un peu partout. Mais en même temps, un vrai qui me paraît bibliquement insuffisant. Et toute réduction d'un des pôles que j'ai souligné paraît léser la vérité biblique que nous essayons de cerner d'une manière, me semble-t-il, qui est inacceptable. Et c'est pour ça que je crois que la question qui se pose à nous, et c'est bien que vous puissiez la ruminer, enfin la question en tout cas, que vous puissiez ruminer cette question pendant un certain temps, c'est, je crois, comment faire pour accepter de ne pas éliminer un des éléments du problème. Accepter de garder l'ensemble de ces éléments. J'espère aussi que vous puissiez essayer de garder le caractère inacceptable de cette question. Vous verrez dans la réponse que j'essaie d'apporter, je crois que la question n'est en aucun cas, malgré le triangle que je vous ai fait dessiner, la question n'est en aucun cas un jeu de mécano, hein, où on essaie de placer la bonne réponse au bon endroit, où on essaie comme un puzzle de mettre les différents éléments chacun à sa place. Ça, c'est une question, c'est une réponse intellectuelle, peut-être que certains philosophes ou que certains théologiens peuvent être tentés de donner, ou que nous sommes tentés de donner. Mais je crois que la question qu'il faut se poser, c'est non pas quelle est la solution au problème, comme la solution du casse-tête chinois, vous savez, pour arriver à mettre les choses, ça marche, mais plutôt quelle est la réponse à la question, et c'est pas la même chose. Et je crois que la réponse biblique est un chemin qui nous est proposé, pas une réponse intellectuelle satisfaisante. Voilà, et c'est sur la suite qu'on reprendra donc lundi. En tout cas, le moment de poser la question, par exemple, de savoir pourquoi je ne l'ai pas mis dans les trois premières images. D'abord parce que il y aurait plusieurs réponses là. La première réponse, il me semble, c'est que j'ai essayé de trouver trois images qui sont, je crois, celles que nos contemporains ont dans la tête. Si vous faites un stand biblique, par exemple, merci. Si vous faites un stand biblique et que vous avez des gens qui vous disent « Ouais, mais si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il permet que ?» etc. Il ne va pas vous dire « Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il permet l'enfer ?» parce que je crois qu'il n'y croit pas. Ou, enfin, bon, ça peut arriver peut-être, mais ça me paraît relativement peu probable. Donc j'ai essayé de penser à des arguments qui sont présents, soit dans la littérature, soit dans la tête des gens. L'enfer me paraît déjà présupposer qu'on accepte la perspective de la foi et encore une certaine perspective de la foi, puisque je dirais que de nos jours, le politiquement correct, le religieusement correct implique l'universalité du salut, en gros. Hein, il faut être fichtrement accroché au texte biblique pour admettre qu'il n'est peut-être pas exclu que tout le monde ne soit pas sauvé, bien que ce soit une grossièreté et bien que nous vous prions d'excuser, etc. Donc voilà. Mais alors, il y a un autre truc qui est un peu difficile pour l'enfer. Et là, j'avoue que je suis moi-même devant un gros point d'interrogation. J'y pense parce que dans le livre, parce que j'ai relu pour l'occasion, au moins en grande partie, le bouquin d'Henri Blocher sur le mal, et que j'ai lu ce qu'il disait là-dessus et que je ne suis pas sûr d'être d'accord avec lui. Bien que, normalement, il ait raison, mais... la question, c'est de savoir, est-ce que l'enfer est un mal ? En posant la question, vous dites oui, bien sûr, ça va de soi. Et le sens commun dit oui. Et mon sens commun dit oui. C'est celui d'Henri Blocher qui dit non. Mais c'est vrai que la question est quand même intéressante. Parce que je dirais que l'enfer, c'est quelque chose dans cette perspective qui existe après le rétablissement de toute chose en Christ. Hein, c'est-à-dire que non seulement il y a l'incarnation, non seulement le monde est racheté par la croix et la résurrection du Christ, toutes choses sont réglées, je dirais, le Christ est revenu, nouveaux cieux, nouvelle terre, etc. Et puis, il y a le résidu, si j'ose dire. Comment considérer ce résidu ? Est-ce que, comme disent certains, si l'enfer existe, c'est finalement... C'est un des arguments pour ceux qui sont universalistes, hein, qui disent « Si l'enfer existe, c'est que finalement, quelque part, le mal, un bout de mal a triomphé, puisque pour l'éternité, ben, il va rester cette enclave du mal. Bon. » Est-ce que, comme dit C.S. Lewis dans son bouquin sur le problème de la souffrance, qui est un bouquin génial, je trouve, à certains égards, même si je ne suis pas convaincu par tout ce qu'il dit, mais pour lui, il a une formule qui est très belle, il dit la porte de l'enfer est fermée du dedans. Hein ? C'est-à-dire que ce n'est pas les gens qui sont enfermés, en quelque sorte, par Dieu dans cet enfer, c'est la révolte de l'homme qui ferme la porte du dedans, qui ne veut pas jusqu'au bout et pour l'éternité reconnaître Dieu. Si on admet la perspective, si on admet l'enfer dans cette perspective-là, alors effectivement on pourrait dire l'enfer est un mal. Et un mal qui dure et un mal qui perdure pour l'éternité, une révolte qui ne veut pas accepter la soumission. Et Lewis dira... l'homme a voulu se révolter contre Dieu et dire non à Dieu, et Dieu l'a laissé faire pour l'éternité. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que l'enfer, c'est ça, ou est-ce que, comme dit Henri Blocher dans son bouquin, l'enfer, c'est finalement le lieu, c'est un lieu de la pleine et entière souveraineté de Dieu au sein de laquelle, au sein duquel, en tout cas, au sein de ce lieu, la personne elle-même reconnaît la souveraineté de Dieu, n'est plus en révolte contre Dieu, d'une certaine manière, puisque la révolte est abolie. Et dans ce cas-là, l'enfer est-il un mal ? Non, dirait Henri Blocher. J'avoue que ça m'a fait sursauter quand je l'ai lu, j'avais oublié qu'il écrivait ça. Non, l'enfer n'est pas un mal, parce que, finalement, c'est un bien... pour la création tout entière, et donc c'est un bien pour l'homme lui-même, y compris... Bon, j'ai un peu de mal avec ça, j'avoue. Mais voilà, pour toutes ces raisons, j'éviterai de prendre l'enfer comme exemple premier, parce que ça me paraît trop compliqué. J'ai du mal à considérer comme étant possiblement quelque part un bien ce qui a été perçu dans toute la Bible comme suffisamment terrible pour justifier la venue du Christ, me semble-t-il, la mort du Christ pour en libérer les humains. Si c'était finalement pas si tragique que ça, est-ce que c'était nécessaire que Jésus vienne, quoi ? Mais voilà, en tout cas, la complexité de la question fait sans doute que ça ne me serait même pas venu à l'idée de la mettre dans le point de départ. C'est effectivement une notion qui est... on pourrait dire qu'il n'est pas dans l'air du temps, hein. C'est vrai que je pense que si la troisième tentative de solution par la faiblesse de Dieu est séduisante, c'est parce qu'effectivement elle touche notre l'humanisme. Elle a comme point de départ le terreau de notre humanisme latent, hein, et que finalement la chose qu'on fera sauter le plus facilement, je crois, c'est cette toute-puissance de Dieu. Alors, je crois qu'effectivement, il y a à travers tout le récit biblique. C'est-à-dire pris non seulement avec des grands textes qui disent ça, mais même, je dirais, dans la manière de raconter les choses ou dans la manière de présenter les choses, il y a la conviction que Dieu est à la fois celui qui a créé, celui qui donne l'être et qui maintient toute réalité créée dans l'existence. Alors, il y aurait des tas de citations bibliques là-dessus. Je crois que les choses les plus classiques, c'est dans le livre des Actes, où quand il est dit que c'est lui qui donne à tous la vie, le mouvement et l'être, etc. Donc, on pourrait citer, si vous voulez citer des références, Acte 17, le verset 28. Mais ce genre de notion, vous allez le trouver dans l'Ancien Testament, dans le livre des Psaumes, par exemple, le psaume 104, verset 29, etc. Il y a aussi cette idée qu'on va retrouver très régulièrement, et sache qu'il faut avoir ça aussi dans la tête. Dans les psaumes, c'est très banal. Imaginez que pour les juifs, je reviens à mon image du départ, pour les juifs qui sont à Auschwitz, et qui sont à Auschwitz en tant que juifs, parce que juifs, leur Dieu, c'est le Dieu de l'histoire. C'est le Dieu qui dirige les événements, aussi bien les petits événements que les grands événements. Alors, vous avez des tas de références, mais je dirais dans le livre des psaumes, par exemple, vous avez au psaume 115, par exemple. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Le « il fait tout ce qu'il veut » implique dans le « tout ce qu'il veut », je dirais... énormément de choses. Et puis ça va se retrouver, alors vous pouvez trouver ça aussi, alors il y a d'autres textes, psaume 135 au verset 6, l'Éternel accomplit tout ce qu'il veut au ciel et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes, des confins de la terre, il fait monter les brumes, il lance les éclairs au milieu de la pluie, il fait lever le vent qu'il tenait en réserve, etc. Ce qui est impressionnant, alors dans l'épître aux Éphésiens, pour pas croire que c'est une vision strictement vétérotestamentaire, mais que ça n'existe pas ailleurs, au début de l'épître aux Éphésiens, au premier chapitre, c'est ça. C'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toute chose selon l'intention qui inspire sa décision. On a l'impression qu'il y a effectivement cette liberté. Là, c'est au niveau du concept, c'est pas l'exemple pratique, c'est au niveau du concept. Dieu est celui non seulement qui opère, qui peut opérer toute chose, mais qui de fait opère toute chose. Et puis, il me semble qu'il y a toute une série d'autres textes qui parlent pas vraiment, enfin, qui ne parlent pas du concept, mais qui au passage montrent que n'importe quelle chose énorme dans l'histoire d'Israël ou toute petite dans la vie de l'individu. Finalement sont gouvernés par Dieu. Dans le livre des Proverbes, justement, on trouve ça aussi à plusieurs reprises. Dans le livre des Proverbes, qu'est-ce que j'ai noté là ? Par exemple, Proverbe 16, premier verset, « L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. » Verset 9, l'homme projette de suivre tel chemin et Dieu dirige ses pas. Proverbe 21, et là je dirais Proverbe 21, c'est encore, j'allais dire pire, c'est encore plus fort. Dans la perspective là, l'homme, l'être humain qui veut prendre une décision est lui-même soumis à des êtres humains puissants. Celui qui est tout puissant, avec un tout petit T là, mais et des guillemets, mais celui qui est tout puissant, c'est le roi qui est capable de faire ce qu'il veut. Et Proverbe 21, le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de l'Éternel, il le dirige à son gré. Un homme croit que tout ce qu'il fait est juste, mais c'est l'Éternel qui apprécie les motivations, etc. Mais le cœur du roi, même, est entre les mains de Dieu. Alors, on a aussi tout un tas d'exemples comme ça. Par exemple, toujours dans le livre des psaumes, mais rappelez-vous que les psaumes, je dirais, c'est aussi particulièrement important parce que c'est un livre de prière. étant livre de prière, le psaume ne forme pas l'intelligence théologique seulement, mais la piété. Donc je crois que ça, c'est tout aussi capital. Psaume 105, verset 25. Donc là, c'est le rappel d'Israël en Égypte. Dieu multiplia prodigieusement son peuple et le rendit plus puissant que ses adversaires. Il changea leur attitude. Il se mit à haïr le peuple de Dieu, à préparer le malheur de ses serviteurs. Alors il envoya Moïse. J'ai l'impression que le bien, comme le mal qui survient à Israël, là, sont en quelque sorte directement attribués à Dieu. Je ne sais pas où j'ai noté ça, mais on trouve ça aussi dans le livre de Ruth, où telle chose est arrivée, mais c'est Dieu qui est, c'est à Dieu en quelque sorte que c'est attribué. Dans le livre du prophète Ésaïe, on va aussi retrouver que le bonheur et le malheur viennent de Dieu. Enfin voilà, vous avez un ensemble de textes, sans même parler, je dirais, de Romains 9, où Dieu est celui qui fait miséricorde, à qui il veut faire miséricorde, qui l'endurcisse, etc. Donc je dirais, il y a un ensemble de textes massifs. La grande tentation que je ressens, c'est, une fois qu'on a lu cet ensemble de textes, de dire, voilà, donc ça c'est sûr, fondons toute notre lecture de la Bible là-dessus. Parce qu'en sens inverse, si j'ose dire, et c'est ça ce que je voudrais maintenir, c'est qu'en sens inverse, vous avez un tas de textes qui nous parlent de l'amour parfait de Dieu, du fait que Dieu, les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal, etc. etc. Et je crois que la difficulté, c'est justement le maintien dans notre tête et dans notre cœur aussi des deux éléments. Et du troisième aussi, puisque le mal est vraiment mal. Il y aurait plein de réponses. Parce que, je veux dire, tout dépend du niveau de la réponse. Il y a un niveau, on pourrait dire théologique au moins, et puis il y a un niveau pastoral. Alors, commençons par le niveau pastoral, qui est le plus facile, d'une certaine manière. C'est vrai que, quelquefois, Satan a bon dos. Parce que, dans la Bible, Satan est le tentateur. Mais encore faut-il succomber à la tentation. Et je ne sais pas si ça existe toujours, mais autrefois, dans certaines églises, il était très à la mode de parler d'avoir un esprit, et donc c'était démoniaque à l'arrière-plan, un